Culture sans frontières.
On va continuer, Rosalie Kohoutova, avec d'autres documentaires que vous avez faits qui sont alors plus spécifiques pour, par exemple, des choses qui peuvent intéresser même nos auditeurs, nos lecteurs, puisque ce sont des sujets franco-tchèques. Vous êtes intéressé justement un peu par hasard aux Tchèques en France. Alors c'est un sujet intéressant, hein, parce qu'évidemment il y a une grosse émigration tchèque aux États-Unis, mais il y a une émigration tchèque en France qui est assez intéressante. Et vous avez fait dresser le portrait de 3 générations de Tchèques. Alors quelles sont ces 3 générations exactement de Tchèques que vous avez pu interviewer et en quoi sont-elles intéressantes?
En fait, il faut dire pour commencer que c'était un commande de la télévision tchèque, mais quand je faisais le film, j'ai découvert quelque chose de vachement intéressant, ça veut dire Sokol de Paris. Après le film pour la télé, j'ai fait un film personnel, un projet pour l'école avec des gens de Sokol de Paris. Alors, c'est 3 générations. Le film parle de 3 générations, ou on peut dire peut-être 4. 4 vagues de la migration de Tchécoslovaquie en France. J'ai vu le décrire vraiment le 20e siècle, ou notre époque, que j'ai commencé avec Georges Schmanda, qui maintenant, il est, je ne sais pas, président de Sokol de Paris. C'était ses parents qui ont émigré à Paris, mais c'était pendant ce qu'on appelle la Première République en Tchécoslovaquie, quand la frontière était ouverte. Et en fait, la migration entre la Tchécoslovaquie et la France était libre comme aujourd'hui. C'était bien sûr un peu plus difficile parce qu'on n'avait pas EasyJet et tout ça.
Mais... Et Internet.
Internet. Mais on peut peut-être comparer cette époque-là avec, je ne sais pas, Alphonse Mucha ou tous ces artistes tchèques.
Kupka, Shima et tous les autres finalement qui sont partis dans l'entre-deux-guerres. En fait, la première République tchécoslovaque, c'est l'entre-deux-guerres. Mm-hmm. Mais eux, c'était donc, les Schwanda, c'était une immigration économique. Hein.
Oh, ouais, on peut dire, oui. Mais c'était assez naturel. Mm-hmm. C'était l'échange entre deux pays démocratiques. Et voilà. Et puis, on a la guerre. Et après la guerre, la frontière s'est fermée. Et ensuite, on a quelque chose que j'appelle la migration politique, ou l'émigration, à cause des raisons politiques. Et ça, j'ai fait une interview avec monsieur Yaroslav Verzala, qui avait une maison d'édition pour le journal qui s'appelle Svedetvi,
qui était le journal de Pavel Tigrin, la revue de Pavel Tigrin.
Une revue qui était interdite en Tchécoslovaquie et qui informait des Tchèques dans une façon sans la propagande. Et en fait, Yaroslav Verzala, c'est quelqu'un qui est assez anticommuniste. Et pour lui, ça, j'ai trouvé vachement intéressant. Pour lui, c'était un peu dans les années 50-60, quand la France elle-même était un peu gauchiste, d'expliquer aux gens que moi, j'ai émigré parce que chez nous, dans un pays communiste, il y a la dictature, il y a des procès stalinistes et tout ça. Et il m'avait dit que de temps en temps, déjà, il ne lui croyait pas.
Il a dû se heurter à une vraie incompréhension parce que le Parti communiste était très fort en France après la guerre. Mm-hmm. Les années 60 avec 68 comme sorte de summum, finalement, c'est l'expression d'une forme de gauche radicale, mm-hmm. disons sous le régime gaulliste. J'imagine que des personnes comme lui et comme beaucoup finalement de Tchèques qui se retrouvent en France, en effet, ont dû se heurter à une véritable incompréhension de la part des Français. Pourtant, ils sont restés en France quand même, finalement.
En fait, au début, il n'a pas du tout... Il n'a pas voulu rester en France. Je pense qu'il a émigré aux États-Unis. Et puis, il est resté, je ne sais pas, 2-3 ans aux États-Unis. Et à cause, je pense que c'était même à cause de Pavel Tigrit, il est retourné en France.
Oui, parce que Pavel Tigrit avait aussi émigré aux États-Unis et est revenu en France dans ces années-là, dans les années 60.
Et je pense que c'était très souvent comme ça. Que c'était, d'abord, c'était facile de la Tchécoslovaquie d'aller à Paris ou en France. Puis des gens sont restés quelque part à Paris ou en France. Et puis, c'était souvent, ils ont continué aux États-Unis.
Mmh. Ouais. Autre génération de Tchèques, alors, c'est lesquels, hein?
Alors, puis, j'ai fait un interview avec une femme qui s'appelle Lucie Boucher. Elle a créé une école pour des enfants dans un centre tchèque où elle coopère avec l'ambassade de la République tchèque. Où ça fait partie de l'ambassade tchèque. Ça s'appelle Škola bez hranic. En fait, elle vient de la génération... Elle était jeune dans les années 90, après le chute du régime, quand c'était déjà possible à voyager, mais pas vraiment, parce que la Tchécoslovaquie et ensuite la République tchèque en France était toujours vue comme un pays de l'Est. On ne faisait pas partie de l'Union européenne. Et elle m'a beaucoup raconté comment c'était dur parce que elle s'est mariée en France, elle est restée là. Comment c'était difficile pour elle, avec des documents, avec qu'elle s'est sentie un peu vraiment comme un émigré. Pour moi, le sujet de Lucie, c'était vraiment comment on crée une famille en étrangère. Comment faire pour que nos enfants ne perdent pas la langue maternelle. Et c'est intéressant que dans les années 90, c'était très, très, très souvent des femmes qui ont émigré et qui s'est mariées en France. Et je pense qu'il y avait cette besoin de faire quelque chose avec des enfants, de faire une école.
De transmettre aussi une culture, finalement, qu'elles avaient abandonnée. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et puis, la dernière génération, c'était une copine de moi qui s'appelle Jitka Honaïzrova, qui a étudié à Paris comme une étudiante Erasmus, comme moi, en fait.
Ça, c'est la nouvelle génération de Tchèques, c'est la génération Erasmus qui a grandi, qui finalement devient adulte alors que la République tchèque fait partie de l'Union européenne.
Mm-hmm. Voilà, c'était maintenant on peut peut-être ce qu'on a maintenant, ce que a présenté Jitka, pour moi, j'ai voulu bien trouver la liaison entre elle et les parents de Georges Chanda. Aujourd'hui, de nouveau, on a l'échange entre deux pays assez naturel, assez spontané.
Comme si finalement on renouait à l'heure actuelle avec ce qui avait fait les relations franco-tchèques dans les années de l'entre-deux-guerres. Mais bon, peut-être pas de manière aussi forte, disons, que les échanges artistiques, mais finalement ça se fait peut-être à d'autres niveaux.
Oui, c'est vrai que si on réfléchit où est maintenant le... où maintenant cherche l'inspiration des artistes tchèques, peut-être ce serait plutôt Berlin que Paris. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent à Berlin. Mais je pense qu'il y a plusieurs connexions entre Prague et Paris. Mm-hmm. Justement, je pense que ça, on avait toujours... je trouve qu'il y a... un peu l'admiration de notre côté pour tout ce qui est français, tout ce qui est parisienne.
Alors juste pour revenir, puisque c'était quand même quelque chose qui vous tenait à cœur, sinon vous n'auriez pas fait un autre documentaire, c'est-à-dire le Sokol de Paris. Le Sokol de Paris, donc, c'est quand même quelque chose de très particulier, hein, parce que le Sokol, c'est une institution qui est née au début du siècle dernier, début du 20e, même fin du 19e. C'est ces organisations gymnastiques qui finalement promouvaient une espèce de corps sain, un esprit sain dans un corps sain, et qui d'une certaine façon devait un peu soutenir la création d'une future Tchécoslovaquie. Et donc il y existe un Sokol à Paris. Alors quelle est sa fonction finalement aujourd'hui? C'est vrai que les Sokols existent toujours et qui étaient interdits sous le communisme réexiste évidemment en République tchèque libre, mais quelle est la fonction du Sokol de Paris à l'heure actuelle?
Je pense que le Sokol actuel, même Georges Vanda, est persuadé que le Sokol de Paris va participer, parce qu'il y a SLET, je ne sais pas comment traduire SLET, rassemblement de Sokol à Prague. Georges Vanda est sûr que le Sokol de Paris va venir pour cette occasion-là. Mais à mon avis, Sokol de Paris, c'est pas vraiment de notre jour, c'est pas vraiment une organisation gymnastique, c'est plutôt une organisation qui garde la tradition et qui aussi va transmettre la culture tchèque aux enfants des autres. Et aussi ce qui est vachement bien, parce que la communauté tchèque à Paris est connectée aussi grâce à, il y a une groupe Yahoo qui s'appelle Petit Drac, et Georges Schwanda a trouvé lui-même, c'est quelqu'un qui a 70 ans, il a trouvé cette groupe, et maintenant il envoie chaque fois, il y a quelque chose qui est organisé par Socorro de Paris, il envoie des annonces, et du coup beaucoup de gens tchèques, des gens étudiants, Erasmus ou n'importe quoi, viennent chez des Socorro, et comme ça il a réussi vraiment de faire des choses pour la jeune génération.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des vieilles personnes entre guillemets de l'ancienne immigration qui viennent, finalement c'est les jeunes qui sinon n'auraient peut-être pas connu le Socorro de Paris, quoi.
Plus en plus, vraiment. Je pense que c'était surtout l'année dernière. Je suis ravie que j'avais de la chance de le voir, parce que Georges, je pense que c'était vraiment l'année dernière quand il a commencé à essayer de contacter des nouveaux Tchèques à Paris.
Est-ce que vous savez quand est-ce qu'aura lieu justement ce grand rassemblement de Sokol?
C'est 2012, mais je ne sais pas quand exactement.
La cinéaste Rosalie Kohoutova a été l'invitée d'Anna Kubishta dans le magazine culturel.